nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. C'est parti, ça va Georges ?
Ouais, ça va super.
Ouais.
Et toi ?
Bon, écoute, très très bien. Je suis ravi de te rencontrer. C'est la première fois qu'on se rencontre en fait. On a parlé un peu la semaine dernière, mais on s'est jamais vraiment croisé. On est presque dans la vraie vie là désormais. Mais...
Presque dans la vraie vie, sauf que t'as un petit filtre sur la tête.
j'ai un gros micro rose. On n'a jamais trop échangé, Georges, on fera bientôt un épisode de Génération Do It Yourself un peu plus classique, mais là, je voulais faire cet épisode avec toi pour plusieurs raisons, notamment parce que je pense que la période est intéressante en termes de communication, de lieux de communication, de créativité, de manière de communiquer, de prise de parole, de responsabilisation, etc., etc. Et je me dis que t'es quand même la bonne personne à qui en parler. Mais avant tout ça, du coup, je veux bien que tu recontextualises et que tu m'expliques un peu ce que tu fais, ce que vous faites chez Buzzman.
Alors, Buzzman, c'est une agence qui j'ai créée il y a 13 ans après m'être arrêté pendant un an et demi. C'est une agence que j'ai créée, on va dire. Avec un aspect très très digital à l'époque, on s'est fait connaître justement par pas mal de campagnes, notamment on va dire le highlight, ça a été la campagne Tipex avec le chasseur et l'ours. Et du coup, ensuite on a commencé à être interrogé par des grandes marques genre Mythic, Burger King, Ikea, etc. Et maintenant, on va dire qu'on est une agence qui fait pas mal de médias traditionnels. D'ailleurs, on fait beaucoup de campagnes télé, tu vois, en ce moment. Les campagnes PMU, les campagnes Burger King, les campagnes Boursorama avec Brad Pitt, etc. Que dire sur l'agence ? Je pense qu'elle a vraiment ce côté. Un peu poil à gratter, un peu qui fait les trucs un peu à contre-pied. Mais de toutes les façons, finalement, à notre sens, la publicité, ça doit être comme ça, parce que si tu veux te faire remarquer, à un moment, t'es obligé de jouer sur, de sortir des sentiers battus et d'avoir de toujours faire un pas de côté. Du coup, voilà, c'est un peu l'agence. On est 150. On a vendu 51% de l'agence. L'année dernière à Havas, et du coup on a vendu notre agence en septembre de l'année dernière, et voilà, c'est un peu les grandes dates de l'agence, quoi.
Vous faites de la créa, que de la créa?
On fait beaucoup de création, mais en réalité quand tu fais de la création, t'as trois pans, t'en as même quatre autour de toi. La première, c'est de la stratégie de marque. La deuxième, c'est des RP. Parce que l'agence s'appelle Buzzman, pas pour rien, parce que l'idée derrière l'agence, c'est de faire plus de médias que le client achète pour sa campagne. Et ensuite, t'as le social media. On a été, on va dire, l'agence précurseuse du social media en France, puisqu'on a créé la première page fan sur Facebook avec la marque Axe. On a hacké YouTube avec Tipex. Voilà, on a une équipe de 25 personnes à l'agence qui s'occupe que du social media. Et la dernière, qui est pas notre spécialité, mais dans lequel tu ne peux pas faire de la bonne publicité, c'est le média. C'est-à-dire le média, l'écosystème de comment tu mets en place une campagne, par quoi tu commences, par quoi tu finis, quelles sont les interactions entre les médias. Mais le core business de l'agence, ouais, c'est la création.
C'est tout ça qui est intéressant. C'est justement là, depuis le début, j'ai l'impression que vous avez pris vraiment vous avez toujours bien su vous adapter au terrain de jeu. Ce que je veux dire, c'est, tu as parlé YouTube, Facebook, Insta à chaque fois. Et puis après, revenir aussi sur des terrains de jeu un peu plus amples, comme tu le disais, de la télé. Je regardais en préparant tout ça la campagne PMU avec de l'année dernière, là, avec les noms des coureurs qui sont remis, donc Marianne, etc., etc. C'est incroyable. Et c'est un peu de ça dont je voudrais parler en attendant les questions des personnes sur qui nous écoutent, qui nous regardent sur Facebook et sur LinkedIn. Mais c'est un peu se dire, alors notamment dans le contexte actuel, mais pas que, comment tu t'adaptes aux médias sociaux, à ces changements, parce qu'il y a eu aussi, un énorme mouvement. Alors sur LinkedIn c'est très actif, par exemple sur Insta c'est très très actif. Moi je suis devenu je commençais à regarder de loin, mais je suis devenu relativement accro à TikTok en parallèle. Je dirais, comment vous regardez un peu tout ça? Qu'est-ce que vous dites à vos clients sur les aspects plateforme d'une part, et après aussi sur les aspects créa? Parce que y a des choses, tout simplement, en termes de prod, tu peux pas faire un énorme film en Afrique du Sud en ce moment, quoi. Donc
Non. Mais c'est intéressant ce que tu as. En fait, finalement, ça a l'air compliqué, mais c'est assez simple. En fait, le mot qui doit résumer tout ça, c'est hacker. Mais c'est un mot qui dépasse même mon travail, c'est même la vie, en fait. Pourquoi hacker? Parce que, en fait, finalement, quand tu fais de la pub, les gens, on va pas se mentir, moi quand j'ai créé mon agent, je me suis dit, en vrai la publicité me fait chier. C'est-à-dire que quand je regarde la télé, je trouve ça indécent, le niveau de pub qu'on impose aux gens, et je trouve que c'est pas normal, en fait, parce que tu sais, les gens sont devenus très forts en marketing, ils savent très bien que quand tu leur dis que tel fromage a moins de matière grasse et tout ça, c'est bon, ils ont compris, ils savent que entre guillemets t'es là pour les baiser. Parce que tu dois leur vendre un truc. Si tu fais de la pub, c'est que t'es là pour, entre guillemets, les manœuvrer, en fait. Et en fait,
tu peux aussi leur présenter un bon produit, tu vois. Enfin, tu peux aussi leur dire, j'ai un bon produit, tu le connais pas, juste tout simplement.
Alors, nous, on a quand même beaucoup de chance, c'est que on a fini par avoir une sorte d'hygiène, et de luxe absolu, c'est-à-dire de pouvoir choisir les clients avec lesquels on bosse. C'est-à-dire, il y a plein de clients depuis 13 ans qui sont venus nous voir. Et en fait, on n'aimait pas trop leurs produits, on n'aimait pas trop ce qu'ils faisaient. Du coup, on leur a dit, bah, nous, on va pas pouvoir faire votre pub parce que c'est compliqué de faire de la pub pour quelque chose que t'aimes pas. Ça a l'air un peu arrogant comme ça, mais ça l'est pas, en fait, parce que c'est comme quand nous, on est un avocat. En fait, on est des avocats. Si un mec te dit, je viens de buter ma femme ou je viens de buter mon mari, et que tu penses qu'il a des bonnes raisons de le faire, tu peux éventuellement le défendre. Mais si tu dis que le mec est terrible, il y avait un bouquin de Dupont-Moretti là-dessus qui était assez extraordinaire. C'est quand même chaud, les avocats qui défendent des gens qui ont fait des choses atroces et pour lesquels il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui les défende. Nous, on a cette chance, c'est qu'on défend des clients qu'on aime. Et ensuite, le hacking, c'est quoi? C'est de dire l'attention des gens. Je vais pas te faire le truc sur tous les messages qu'on reçoit par jour, et plus le social media est important. Et plus c'est compliqué, mais la réalité, c'est que si tu mets pas donc ce fameux pas de côté, et si tu arrives pas à capturer l'attention par des trucs que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre, tu dépenses ton argent pour rien. Et nous, on est des capteurs d'attention, on est des braqueurs d'attention, en fait. Et l'idée, c'est quoi? C'est de faire du Spadjari ou du Arsène Lupin, c'est-à-dire de le faire avec de l'élégance et que les gens se disent, putain, je savais qu'ils venaient pour me baiser, mais ils m'ont bien baisé. Du coup, je les aime bien. Non, mais tu vois, Spadjari, c'est un mec, il a volé une banque, mais la façon dont il a volé la banque, tu te dis, putain, le mec est classe, quoi. Tu vois, il y a une sorte de panache dedans. Donc, c'est un peu vulgaire, hein, je suis désolé, mes mots, mais c'est important parce que les gens, ils savent que les gens qui font de la pub à la télé ou dans la rue, c'est pour les faire consommer, en fait, ou leur dire, je suis meilleur que mon voisin. À partir du moment où t'as ce cynisme avoué, nous on se dit, bah nous on a la chance de pouvoir dire à nos clients, puisque vous êtes là pour dépenser de l'argent et convaincre des gens, faisons-le avec panache. C'est la philosophie de notre agence, c'est if you want to crash the party, bring some champagne. C'est-à-dire, si t'arrives dans une soirée et que t'es comme un crevard et que t'arrives les mains vides, les gens ils t'accueillent moins bien, tu vois. Si t'arrives dans une soirée où t'es pas invité et t'arrives avec une bouteille de champ, t'es le bienvenu.
Ouais,
c'est un peu une analogie qu'on aime bien. Et du coup, il y a ça. Et ensuite, il y a le hacking des médias. Comme tu disais, quand on a fait YouTube, Tipex, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris YouTube et on a été la première marque et agence dans le monde à rendre interactif YouTube. Avant, tu arrivais sur YouTube, tu regardais une vidéo, tu étais passif. Nous, on a trouvé un système pour que ta vidéo, c'est toi qui la fasse changer. Et évidemment, ça crée une expérience pour les gens qui est tellement dingue qu'ils ont envie d'en parler à leurs voisins.
Tu peux hacker. C'est là où tu gagnes du média.
Ouais.
Tu gagnes, c'est là où tu gagnes des RP et du média. Ouais, c'est ce que tu disais. Ouais.
Exactement. Et tu vois, par exemple, quand on a fait Milka, le dernier carré, où on a enlevé un carré de chaque tablette de Milka, on a hacké un produit. C'est-à-dire, on a pris un produit et on l'a piraté, en fait. Et les gens, ça crée de l'attention parce qu'ils se disent, merde, pourquoi on a enlevé mon dernier carré? Et on leur explique que le dernier carré, c'est celui qu'ils aiment le plus. Alors qu'en fait, c'est juste le même chocolat, hein, mais le dernier, il a l'air meilleur. Et du coup, on donnait la possibilité aux gens de l'envoyer à un proche ou de le garder pour eux. En fait, à chaque fois que tu hacks, et d'ailleurs, c'est pour ça que Instagram, pour l'instant, je trouve que, tu vois, je le dis régulièrement à l'agent, je dis, on n'a pas réussi encore à hacker Instagram. Il y a plein de trucs pas mal, mais on n'a pas réussi à vraiment... comment tu peux hacker? Évidemment, c'est une connaissance très forte du média. Une fois que tu as acquis toutes les grammaires et toutes les fonctionnalités d'un produit, c'est là où tu peux le... Quand tu connais bien la matrice, c'est là où tu peux la transformer, en fait. Tu peux pivoter dedans. Et en réalité, c'est pour ça qu'il faut connaître parfaitement toute la grammaire de ces médias et des différentes plateformes pour qu'à chaque fois, tu puisses voir dans la substantifique moelle de chaque média ou social média comment tu peux le tordre, et évidemment tout ça en plus au profit d'une marque, c'est-à-dire qu'il faut que ça ne tombe pas comme un cheveu sur la soupe, il faut que ça soit naturel.
Si je reviens sur la période actuelle, du coup je comprends bien l'état d'esprit, le mindset Buzzman. Si je reviens sur ce qui s'est passé depuis le 17 mars, le début du confinement, et voilà, ça a été quoi déjà la réaction de vos clients? C'est-à-dire, est-ce qu'ils vous ont dit, bon, là, on arrête tout, toutes les campagnes, tous les tournages, toutes ces choses-là, il s'est passé quoi, en fait, chez Buzzman?
Alors, moi, en fait, début février, j'ai lu ce truc sur l'ophtalmo à Wawen qui est mort, là, qui a été le premier mec qui a dit qu'il y avait un problème. Donc, de façon assez lointaine, j'ai toujours regardé ça en me disant, putain, il y a un truc qui déconne, hein. Et en fait, 15 jours avant, on s'est dit, tiens, ça va merder. Et du coup, on a confiné l'agence et on a imposé le télétravail 4 jours avant. Donc on est parti en confinement le mardi 17. Nous, on a arrêté l'agence le jeudi d'avant. Le jeudi soir, on a fermé l'agence. Donc on a fait ça de façon hyper réactive. Et on a organisé des trucs, tu vois, il y a des gens à l'agence qui bossent avec des petits ordis, donc eux, ils sont partis avec leurs ordis, mais il y a des gens qui bossent avec des grands ordis, donc on a fait une tournée avec des bagnoles pour aller déposer ça chez les gens, et très rapidement, on leur a dit, voilà comment on va bosser, voilà comment on va utiliser des Zoom. Assez rapidement, on a bossé avec Zoom et tout, et avec nos clients, franchement, on va pas se mentir, on a tous pris une percute dans la gueule. Tu vois, on a eu quand même une semaine où on s'est dit, putain, qu'est-ce qui nous arrive et tout. Mais assez rapidement, on s'est appelé avec les clients en se disant, voilà, c'est pas parce qu'il va se passer ça qu'on va se regarder le nombril et se dire qu'on est en train de vivre un truc horrible. Comment on peut positiver ça? Et donc, il y a des clients pour lesquels on a fait des blackouts parce que eux, carrément, ils avaient plus de business. Et puis, il y en a où il y avait plus de business et ils voulaient quand même communiquer parce que on connaissait pas la date, la durée de ce confinement, tu vois. À la base, rappelle-toi, c'était 15 jours. Donc là, on est à bientôt 8 semaines. Donc, avec les clients, tu vois, il n'y a pas eu, tout ça s'est fait assez naturellement. Et je pense qu'aussi, on a été, à mon sens, on a été plus proche de nos clients parce que, ils nous ont laissé rentrer plus dans leur marketing puisque ils étaient vraiment en galère, en fait. Il y a des gens pour les, tu vois, par exemple Burger King, bah ils, tu vois, du jour au lendemain, bah ils ont fermé leur restaurant et ils vendent plus de plus rien dans leur restaurant. Donc ça fait un gros chiffre d'affaires qui part à la poubelle. Et du coup, qu'est-ce que tu dis? Soit moi c'était un peu mon maître mot. Soit tu as des trucs intéressants à dire, tu vas soit divertir les gens, soit les rendre, te rendre utile. Soit si t'as pas un truc vraiment très intéressant, tu dis rien et tu laisses passer l'orage. Donc avec les clients, ça s'est fait un peu assez naturellement, honnêtement. Après, t'as l'histoire de revenus. T'as des clients, y a beaucoup de clients qui nous ont demandé de soit cutter nos revenus, soit les baisser drastiquement, ce qui est normal d'ailleurs puisqu'ils avaient plus de revenus. Mais ça, pareil, de la même façon, nous, on a eu de la chance. Et là, pour le coup, dans l'audience que tu as, moi, je me suis rendu compte. Tu vas dire c'est débile, hein, mais je me suis rendu compte de la puissance de la trésorerie.
Ah, oui.
La puissance de la trésorerie, en fait, ça fait tout, en fait. Parce que quand tu as une bonne trésorerie et quand tu montes un business et tout, moi, je dis souvent, hein, si je n'avais pas Olivier Amsalem, qui est mon directeur financier, Buzzman ne serait pas Buzzman aujourd'hui. Parce que qui dit santé financière dit libre cours à la création. En fait, quand t'as pas le, tu vois, moi, je me suis jamais endormi en me disant, oh, putain, l'URSSAF, jamais, en fait. Donc, j'ai cette naïveté encore, l'insouciance du manque de problèmes, financiers. Et là, il faut, quand vous avez une bonne idée, je pense qu'il faut vraiment s'entourer d'un directeur financier qui soit en métal, en fait.
Non, c'est sûr, c'est sûr.
Nous, bon, par exemple, on a proposé à certains de nos clients, un peu de trésor dans le paiement de nos revenus, tu vois. On leur a dit, ben, vous nous payez pas pendant 2 mois et vous nous paierez plus tard. Et en fait, ça, c'était intéressant pour eux parce que la vraie difficulté qu'ils avaient, eux, c'est qu'ils n'avaient pas de rentrée d'argent. Donc, le fait d'en sortir tout de suite, c'était chiant. Donc, nous, on a permis ça, on a offert ça à nos clients mais ça, encore une fois, c'est parce que ça, on pouvait se le permettre.
Faut espérer qu'ils se cassent pas la gueule derrière, en revanche. Mais bon,
c'était des. Alors ça, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à tous les gens de l'agence. On a fait un zoom avec toute l'agence assez rapidement. Je leur ai dit, en fait, c'est là où on se rend compte aussi qu'on dépend de nos clients, parce que si t'as un client qui pivote mal cette période ou qui s'en sert pas bien, on est là pour les aider, hein. On est là pour les aider, mais. Tu vois, il y a des trucs qui sont, pour le coup, qui sont pas uniquement de ton fait, en fait.
J'ai des remarques, hein, les braqueurs de l'attention, cash is king. En effet, comme tu le dis sur la trésorerie, ça c'est quelque chose de très important. On pourra revenir.
Le truc de la trésorerie, je trouve que c'est assez rarement, dit, en fait. En fait, c'est jamais mis à l'ordre du jour parce que ça parle d'argent, donc on est en France, donc c'est un peu tabou. Mais en réalité, c'est un truc. Là, en ce moment, si tu veux, les gens qui vont résister, c'est les gens qui ont de la trésorerie.
Ouais, après, faut faire attention à pas passer le message de, tu vois, là, toi, tu fais attention et tu laisses même des délais de paiement à certains de tes clients. Mais en l'occurrence, faut aussi un réflexe qui est quand même assez mauvais et très nocif pour pas mal, c'est de plus payer leurs fournisseurs, tu vois, ou leurs partenaires. Il y en a qui se sont mis dans des trucs. Et ça, moi, je trouve que c'est terrible. C'est terrible. C'est-à-dire que tu as des... Ouais.
T'as raison. Moi, c'est pour éviter de pas me faire payer. Donc, c'est, je te permets un transfert de trésorerie pour ne pas avoir justement à prendre des sanctions plus dures, en fait. Mais t'as raison. Il va y avoir des dégâts parce qu'il y a des gens qui, sous le couvert de la crise, vont se dire, bon, ben, on va payer à 6 mois et pas à 2 mois, etc. Ouais, donc ça va faire des ravages.
J'ai quelques questions qui montent, mais avant ça, je voudrais, tout à l'heure, quand je t'ai appelé pour préparer un peu tout ça, j'étais au téléphone, et tu parlais avec quelqu'un de ton équipe, et j'ai été surpris par plusieurs choses. Alors déjà, c'est ton implication, je vais reprendre ton terme, je crois que tu as parlé de poils de cul, mais au millimètre près dans un truc de montage. Donc, je t'entendais dire là, oui, à telle seconde, centième, millième, etc. Tu coupes ça, tu fais ça, etc. Donc, ça m'impressionne parce que quand même, dans une boîte de 150 personnes, j'arrive pas à me dire à quel point tu peux être encore autant opérationnel sur des choses. Alors, est-ce que c'est sur beaucoup de clients et voilà. Voilà, je vais te poser celle-ci, mais après, et je voudrais juste voir comment ces workflows ont évolué récemment, parce que en effet, derrière, d'habitude, j'imagine que t'es derrière ta réalisatrice, ton réalisateur avec qui tu fais ça, et tu te mets là, et puis vous regardez le truc, vous avez des timecodes, etc. Comment vous avez organisé ce workflow et comment vous arrivez à travailler là-dessus, mais à la limite depuis le tournage jusqu'à la release totale du film, quoi.
Je vais te dire comment on a fait. Sur la première partie de ta question, je vais te répondre avec deux choses importantes. La première, c'est que j'ai une chance inouïe et assez indécente, c'est que ce métier, c'est ma passion. C'est-à-dire que ce que j'ai fait tout à l'heure quand tu m'appelais, moi, j'étais en kiff. C'est pas un taf, en fait. Je le fais parce que je trouve ça passionnant, en fait. Donc, bizarrement, les gens nous donnent beaucoup d'argent pour faire des trucs qu'on adore. Donc c'est assez, c'est pour moi c'est un bonheur et une chance inouïe. Et la deuxième, c'est que je peux évidemment pas le faire sur tous les clients, et c'est pour ça qu'on a des seniors, notamment au niveau de la création, qui ont le lead sur différentes marques. Là en l'occurrence, c'est la prochaine pub pour PMU, et c'est marrant parce que elle va répondre à la troisième question, qui est quels sont les différents la nouvelle façon de bosser. Je peux pas vous en dire plus, mais quand vous allez voir cette pub PMU, ça va vous faire marrer par rapport à ma réponse, parce que en fait finalement on a fait une sorte d'analogie avec ce qu'on est en train de vivre, mais avec pas forcément des humains. J'en dis pas plus que ça. Donc le fait d'être hyper impliqué, oui, je le suis dans une certaine mesure dans les clients que je gère moi personnellement à l'agence. Et on va dire souvent sur les sujets qui sont importants et qui là, tu vois. Par exemple, c'est vrai qu'en montage, c'est vraiment une matière que j'aime beaucoup. Et donc là, effectivement, je faisais chier sur 4 images à gauche, 4 images à droite. On se fout souvent de ma gueule en me disant ça d'ailleurs. Mais j'assume, j'adore ça et c'est cool. Et après, sur le workflow qui a changé, finalement, moi, je vais te répondre par rapport à un truc, c'est que quasiment depuis de nombreuses années, moi, ça fait longtemps que je suis en télétravail.
Ok.
Quasiment, je suis pas à l'agence le matin. Ça veut pas dire que je ne travaille pas. Ça veut dire que les gens ont l'habitude de gérer les trucs avec moi par mail ou par WhatsApp ou par Messenger. D'ailleurs, je sais pas si t'as ça, mais il y a des gens qui sont associés à des réseaux. Il y a des gens à qui tu réponds que sur WhatsApp, il y a des gens à qui tu réponds que sur Messenger. Je sais pas si tu as ça.
Ah si, oui.
Et du coup, nous on a fait beaucoup de Zoom et on a fait beaucoup de Google Meet. Et en réalité, franchement, c'est moi je trouve. Hein, je vais dire un truc peut-être qui c'est un peu indécent, mais je trouve qu'on travaille mieux, quoi.
Je partage. Enfin, il y a une question d'efficacité qui est assez sympa. Alors, il manque un truc. Je te sens quand même aussi pas mal comme ça, peut-être. Mais ce truc de méditerranéen qu'on est nous Français quand même, de small talk un peu et de, tu vois, sur voilà, il y a là, c'est quand même plus bon. Bah, efficace. T'arrives, t'as un truc, t'as les calls, tu les enchaînes. T'as plus de temps de trajet, de soupape, de machin. Ça fait donc du coup, en effet, ça fait un peu tunnel. Et moi, j'ai l'impression de partir du matin jusqu'au soir et d'arriver
en ayant fait beaucoup plus. Tu peux pas te permettre de faire des réunions comme tu les fais d'habitude, parce que sinon le soir tu as envie de te flinguer.
Oui.
Déjà je sais pas si tu as eu ça, mais moi j'ai eu un syndrome 2 ou 3 fois où genre j'ai fait effectivement des tunnels de 9h à 19h et à 19h, j'étais un peu angoissé en me disant putain, mais j'ai vraiment l'impression que la journée a duré 1 heure. Mais mon espace-temps a été complètement éclaté, tu vois.
Et ça m'est arrivé hier soir.
Ouais, et t'es là, tu dis putain, mais j'ai pas passé 12 heures là, en fait. Il s'est passé 1 heure ou 2 heures max. Donc, tu peux pas te permettre, quand tu vis ça, de te dire « Salut, ça va, tchac, tchac, en chat. » C'est quoi? Tu vas straight to the point, no bullshit. Tu sais, moi, dans les mails, par exemple, j'ai toujours dit TLTR. Tu connais TLTR?
Oui, too long to read. Ouais, ouais.
Too long to read. Et en gros, moi, si eux, mes équipes, elles savent que si elles m'envoient un mail où j'ai besoin de scroller, ben, je vais pas le lire. Parce que j'ai pas le temps, en fait. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que je vais pas lire. Et alors d'ailleurs c'est marrant parce que maintenant il y a le remède anti TLTR, c'est que les mecs font des spoilers et des alertes TLTR en disant je peux pas le résumer. Mais effectivement, je trouve que c'est tu sais, je vais te donner un exemple. Quand on a fait la campagne Burger King, le Whopper de la quarantaine, je résume en deux secondes, on s'est dit OK, on peut plus vendre de Whopper, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va être utile aux gens, on va leur donner une recette pour faire le Whopper de la quarantaine. Franchement, c'est une chouette idée, mais le truc a fait le tour du monde. Ça a fini dans Fast Company, dans Forbes, dans CNN. Et parce que justement, c'était une marque qui fait, en fait, se subériser.
Ouais.
En fait, c'est une marque qui s'auto-ubérisait. C'est-à-dire, elle s'auto-ubérisait en disant, faites vos courses ailleurs au lieu de venir chez nous. Un peu par la contrainte. Et en réalité, ce truc-là, il a été remarqué par Carrefour et par Uber Eats. Et en 4 jours, on a réussi à mettre Carrefour et Uber Eats pour faire des kits pour livrer aux gens via Carrefour et Uber Eats, livrer aux gens leur kit de Whopper.
Et c'est là où tu vas beaucoup plus loin que la pub, entre guillemets. C'est ce que tu disais un peu. C'est-à-dire que tu hacks vraiment l'idée avec d'autres partenaires, etc. Carrefour et Uber Eats, qui étaient déjà tes
pas attention, du
tu vas finir. Tu vas finir tout nu, hein, si tu... Non, y a pas de souci. C'est des clients ou même pas du tout, non? C'est des gens Carrefour et Uber Eats. D'accord, ouais, c'est juste.
Si, Carrefour, c'est pas un client, mais Uber Eats, on travaille un peu pour eux. Mais surtout, le truc qui est dingue là-dedans, et c'est pour ça que c'est vraiment, quand je te dis, l'efficacité, elle est dingue, c'est qu'en 4 jours, on a fait un deal et on a monté le truc. Un truc comme ça, normalement, ça peut prendre 4 mois, 5 mois, ouais. 6 mois. Les allers-retours, alors, mais il faut demander à San Francisco.
Ouais, c'est ça qui est fantastique.
Mais
ouais.
Il faut demander au mec de la... Tu vois, et c'est, en fait, c'est un truc d'inertie où à la fin, tu peux avoir un mec qui dit, vous savez quoi? C'est trop long, on laisse tomber. Ouais. Et là, le truc s'est fait en 4 jours. Et je vais même être honnête, il s'est fait sans moi. Un jour, on m'a envoyé en me disant, tiens, on va faire ça avec Carrefour et Uber Eats. J'ai regardé, je fais, putain, c'est génial. Fin.
Très bien.
Et ouais, je pense que Bompard, il n'a pas vu. Je pense qu'il y a, des gens en dessous de lui qui ont pris la décision de faire ce truc parce qu'il est cool, il est bien, il aide les gens, il a des valeurs hyper intéressantes par rapport à l'époque qu'on vit. Et les gens n'ont pas trop réfléchi. Et
c'est bien parce que je t'en prie.
Je pense que on a un peu tendance à trop réfléchir.
Ouais, et puis à avoir trop peur de prendre des décisions aussi dans beaucoup de très grosses boîtes que sont tes clients aussi de temps en temps. Mais
la peur, c'est le truc qui bute tout le monde.
J'ai quelques questions qui remontent déjà. Alors sur différents aspects, certains qui me disent, bah, Kevin Pearson qui dit au début de Buzzman, comment tu as fait pour convaincre des clients pour mettre en place des campagnes subversives?
Écoute, je sais pas si en réalité tu vends pas de campagnes, c'est les clients qui les achètent. Tu vois, évidemment il y a toujours même quand tu présentes un truc, tu peux toujours avoir un client qui dit, putain, c'est quand même osé de le faire. Mais à la fin, tu peux pas le violer. Le mec, il a envie de le faire parce que le truc est limpide et il se dit, tiens, ça va aider ma marque. Donc, je sais pas, peut-être qu'on arrive à avoir une sorte de résonance dans les idées qu'on a avec à la fois les clients et puis finalement leurs consommateurs. Tu sais, souvent, moi, je dis aux clients, en fait, c'est vachement facile. Tu as 2 façons de savoir si ce que je te raconte est une bonne idée. La première, est-ce que toi, en tant que consommateur, tu dis, putain, j'aimerais bien qu'on me dise ça. Et 2, alors ça, c'est un test qui est quand même pas mal, c'est est-ce que cette campagne, tu la mettrais sur ton LinkedIn ou sur ton propre Facebook? Quand tu fais ça, ça veut dire que c'est plutôt bien, ça veut dire que tu en es fier.
C'est vrai.
Je pense que c'est un bon test quand tu, en termes de communication et pas forcément pub, hein, quand tu as envie de faire un truc, tu vois, alors, je le dis en avant-première et j'espère que ça sortira demain sur LinkedIn. Il y a 4 jours, le jeudi, il y a un mec qui cherche un stage et il a fait un masque. Il a fait un masque pour Burger King en disant « on ne béconne pas avec la sécurité ».
On ne béconne pas, ok.
Okay. On ne bacon pas avec la sécurité. Et en fait, il y a plein de gens qui nous l'ont envoyé et tout. Donc, du coup, je suis allé voir le truc, j'ai trouvé ça bien. Et j'ai dit au mec, écris-moi à Buzzman avec mon adresse. Le truc, son post, il a fait 4000 ou 5000 likes. Le truc est devenu viral. Et en fait, le lendemain, comme il cherchait un stage, je lui ai demandé de proposer de faire un zoom, sauf pour lui proposer un stage et pour lui dire qu'on allait mettre en scène son masque dès qu'on allait réouvrir. Et en fait, surtout, je lui ai fait une surprise. C'est que dans le zoom, j'avais invité le directeur marketing France de Burger King, Alexandre Simon.
D'accord.
Et le directeur marketing monde de Burger King, Fernando Machado. Et en fait, je lui ai fait la surprise parce que quand on a fait le zoom, ils étaient déjà là. Et donc, le gamin, je lui ai fait une sorte de surprise sur Zoom via LinkedIn, tu vois. Donc, je vais le mettre demain. Du coup, on l'a enregistré la vidéo. Je vais la mettre, je pense, demain. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un de LinkedIn qui m'entend et qui peut prendre contact avec moi, ça peut être cool parce que j'aimerais bien. Je trouve que c'est un. Je le fais pas pour moi. Hein. Je le fais juste pour d'abord pour Clément parce qu'il a une super idée, mais surtout parce que je trouve que l'énergie que le mec a mis en faisant ça, tu vois, c'est exactement ça. C'est soit tu dis putain, on se morfond, ce qu'on est en train de vivre, c'est terrible. Soit tu dis putain, moi je cherche du taf. Ben je vais utiliser ce moment délicat pour trouver du taf. Donc tu vois, lui il m'a convaincu. C'est pour répondre à la question du subversif. C'est pas très subjectif, c'est juste que ça m'a fait sourire, j'ai trouvé ça cool et j'ai pas été le seul parce que et les directeurs marketing France et le directeur marketing monde et tu vois, rien que ça c'était génial. T'imagines, j'ai demandé la présence de ces deux personnes sur WhatsApp, les mecs m'ont dit oui en 5 secondes. T'imagines, normalement ils m'auraient dit oui, non, mais j'ai des trucs à faire, ou ils m'auraient même pas répondu, tu vois. C'est quand même une période géniale en fait.
Ouais. Déjà avoir quelqu'un avant en Zoom ou voilà, c'était pas une norme, et puis en plus dans l'immédiat c'était très compliqué. Donc en effet là t'accordes facilement 5 minutes. Tu vois, comme même on a organisé cet épisode à chaque fois par bribes de 5-10 minutes de petites. C'est hyper intéressant. Il y a Margot aussi de Normandie qui nous demande pensez-vous que la crise actuelle va avoir un impact négatif sur le marché de l'emploi dans les agences, et est-ce que Buzzman a mis en suspens certains recrutements?
Alors. Moi, je viens d'engager, donc on l'a engagé, donc depuis lundi ou hier ou aujourd'hui, je sais plus. Il est en stage à l'agence pour 6 mois, mais bon, c'est un peu un cas exceptionnel. Malheureusement, j'ai envie de dire oui, ça va avoir un impact négatif. Nous, globalement, si tu veux, cette année, on va perdre 20-30% de notre revenu, mais on a vraiment comme objectif de se dire. On veut garder toute l'équipe. Donc tout ce qu'on va faire, c'est vraiment pour se dire, même si on fait zéro et c'est un objectif qui est déjà positif finalement, si on fait zéro à la fin de l'année mais qu'on garde toute notre équipe, on sera heureux. Donc c'est vraiment notre mindset là. Donc malheureusement, je pense que ouais, l'impact négatif sur les recrutements, il va être là. Moi, je pense que l'aspect psychologique de ce qu'on vit est terrible. Être confiné, c'est dur. On peut pas voir les siens, on peut pas les embrasser, on peut pas voir ses proches. Alors c'est bientôt, mais tu vois, pendant cette semaine, c'est dur. En vrai, c'est quand même une épreuve psychologique qui est très dure. Je parle même pas des gens qui ont eu des soucis de santé ou des gens qui ont perdu des proches ou qui ont disparu, paix à leur âme. Donc ça, évidemment, là, on est en train de parler de d'emploi. Je pense que le marché de l'emploi va, l'aspect économique, l'impact économique de cette crise, il va être vraiment dur. Je pense que le il va être dur et il va être d'autant plus dur. C'est pour ça que nous, on essaie d'être positif et on a toujours été positif depuis le début de cette crise. Mais il faut pas se mentir. Ça, il va y avoir de la casse. Il va y avoir de la casse et c'est pour ça qu'il faut vraiment qu'on soit tous solidaires et que. On met en avant les postures positives, les postures créatives, les postures qui donnent de l'espoir par rapport à ce qui va se passer, parce que c'est ça dont les gens ont besoin. Les gens, ils ont besoin, et c'est pas besoin genre en méthode coup, et c'est que dans les faits, il y a eu des trucs très durs pendant cette période, mais il y a eu des trucs extraordinaires. Il y a eu des trucs qui sont, moi je sais pas, moi j'ai beaucoup pleuré moi pendant cette période, mais d'émotions, tu vois, des trucs que tu vois, les premiers mecs qui sortent de leur réanimation avec tous les infirmiers qui les applaudissaient, tout. C'est formidable, tu vois. C'est comme au cinéma, t'as la chair de poule, t'as envie de chialer et tout, et ça te donne de l'énergie. Tu dis, putain, il y a des mecs, le personnel soignant, c'est pas pour rien qu'on les applaudit, c'est parce que pendant que toi t'es tranquillement chez toi en train de mater tes séries, t'as des mecs qui avaient à peine des masques, qui se battaient pour aider à des gens à rester vivants. Donc t'as un ressort et t'as des leviers émotionnels qui sont dingues. Une fois que t'as dit ça, tu sais que on va tous avoir des lésions psychologiques de tout ça. Et économiquement, il faut vraiment qu'on. Moi, je pense qu'il faut pas qu'on attende après le gouvernement. Le gouvernement, il va être là pour organiser le bordel. Mais là, il faut que chacun se relève les manches. Et on est des putains de warriors. On est des putains de warriors. Tu sais, quand il y a eu les attentats et tout, on a tous pris pareil un uppercut dans la gueule, mais on s'est relevé. Et je pense que c'est le monde entier qui doit se dire ça.
Tu vois, pour répondre un peu aussi à Margot, nous on a eu et rebondir sur ce que tu dis, hein, on a eu chez Cosa Vostra une approche qui est vraiment un warrior comme tu dis, avec un, tu vois, on s'est resserré énormément entre nous et autour de nos clients pour se dire ok, on réfléchit bien à ce que vous pouvez faire, à comment vous devez adapter. Et c'est vrai que moi j'ai assez peu de clients comme Burger King avec des chaînes entières de restaurants fermés ou des hôtels ou des choses comme ça. Donc du coup, tu vois, sur certaines autres marques de food qui sont plus en grande distribution ou de choses comme ça, qui ont vu leur chiffre d'affaires qui a augmenté, des GAFA ou des gens comme ça qui ont vu, donc qui font d'autres choses. Mais nous, on a essayé vraiment de se décaler un petit peu. Donc il y a des opportunités qui se créent, mais l'ensemble du gâteau va être un peu plus petit de toute façon. Donc ça va être un peu plus compliqué. Ça me permet de rebondir sur la prochaine question que je voulais te poser de la part de Charles Cara, que j'embrasse au passage, qui dit comment cette crise va impacter notre façon de consommer, et plus spécifiquement pour toi, pour nous, est-ce que tu vas transformer la manière de t'adresser aux consommateurs? Est-ce que ça va un peu changer tout ça?
Ouais. Alors moi, à titre personnel, et pareil, tu vois, je suis un peu déçu que personne n'ait pris la parole là-dessus. Tu sais, au début du confinement, tout le monde a dit « Ah putain !» et tout le monde a fait des blagues sur « Je vais prendre 10 kilos, nanana. » En fait, moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que c'est un moment de méditation finalement où tu te retrouves avec toi-même, et je pense que c'est un moment où tu pouvais te dire « Je vais manger moins en fait. » Je pense qu'il y a personne qui l'a dit, et je trouve que c'est dommage, mais par exemple, moi je fais partie des gens qui ont maigri pendant ce confinement par l'effet de deux choses. J'ai mangé moins de choses, j'ai mangé plus sain et j'ai fait plus de sport. Donc, quand tu as
pas bu beaucoup plus d'alcool?
Non, beaucoup moins, parce que l'idée d'être en confinement, donc un peu touché psychologiquement et avoir la gueule de bois le lendemain, me déprimait à l'avance.
D'accord.
Tu vois, je l'ai fait deux fois où j'ai un peu picolé, mais tu vois, j'ai eu la gueule de bois parce que comme je picole moins, bah, quand tu bois à 4 verres, le lendemain, t'as un peu. Il te manque, t'as la bouche un peu pâteuse. Et du coup, moi, je pense que là, l'idée de se dire, il peut y avoir un risque du fait que la nourriture soit en limitation, parce que, tu sais, il y a eu le problème des agriculteurs qui avaient pas assez de main-d'œuvre, pour les récoltes. Je me suis dit, tiens, donc du coup, je vais moins consommer. Et je trouve que la première des choses que ça va changer pour moi là, c'est que, déjà, j'avais pris un virage où, tu vois, l'année dernière, pour mes 50 piges, pendant un an, j'ai pas mangé de viande. Et là, du coup, si tu veux, par exemple, tous les mardis, je me fais mon Whopper. Une fois par semaine, je bouffe de la viande, parce que c'est le mardi, on se fait un anniversaire. Tu sais, tous les mardis, c'est l'anniversaire du confinement. Du coup, on fait un peu de la merde. Le mardi, c'est un peu genre, on se laisse un peu aller. Mais du coup, moi, je trouve que, au contraire des gens qui disent, ouais, putain, j'ai boubouillisé, j'ai mangé de la merde parce que je me fais chier ou je mange des gâteaux et tout. Mais non, en fait. Pour plein de raisons. C'est con, mais quand les gens se disent, putain, ça va être une crise économique, bah, déjà, tu fais des économies, t'achètes moins de trucs, tu dépenses moins de trucs, t'achètes peut-être moins de choses, mais de qualité. Donc là, il va y avoir tout le sujet des produits locaux des produits faits en France, parce que le fait de dépendre des pays à l'étranger, on s'est bien rendu compte que ça nous foutait quand même beaucoup dans la merde. Je parle même pas des masques, mais même d'autres choses. Donc je pense que ouais, ça va consommer local, consommer moins de bouffe, manger des trucs où on fait attention à soi et tout. Je trouve que c'est un vrai thème que le gouvernement. C'est compliqué de dire aux gens consommer moins, parce que ça va. T'as l'impression que ça va moins avec l'économie, mais en fait, je parle de bouffe, hein. Mais en vrai, tu peux dépenser autant d'argent en mangeant des trucs de qualité, et au lieu de dire on va manger des trucs pas bons et qui vont nous faire du mal à la santé. En fait, tout ça, il y a un putain de cercle vertueux à trouver qui serait intéressant à creuser. Je suis pas nutritionniste et je suis pas économiste, mais en tout cas, moi, ça me parle. Et du coup, peut-être que dans les prochaines recos qu'on va faire, et d'ailleurs, c'est très intéressant, on s'apprêtait avant tout ça de lancer un Whopper à base de végétal. C'est génial, c'est-à-dire que là, à la sortie du confinement, il va être plus d'actualité que jamais. Donc ça va être une réponse à ce qu'on vient de vivre.
Donc un début de changement de manière de s'adresser aux clients, et tu le vois sur d'autres points. Est-ce que déjà d'un point de vue peut-être créatif, tu vois, je vois certaines marques qui sont mises à faire, il me semble que c'est L'Oréal avec Eva Longoria qui se fait elle-même sa couleur de cheveux, d'autres qui ont eu des mannequins qui se photographiaient chez elles pour des modèles de lingerie. Est-ce que ça, c'est juste un truc, là je parle d'un aspect très créatif, un moment où ça va revenir, ça va rester?
Non, c'est hyper bien vu de ta part. Tu sais, on a fait une campagne qui a été assez mythique, j'allais dire, assez remarquable et assez remarquée, c'est la campagne mythique, justement, où on disait, si vous n'aimez pas vos imperfections, quelqu'un les aimera pour vous. C'était la tagline de la campagne.
Je me souviens très bien, je la trouve fantastique. Ça me rappelle mes grands-parents.
Ouais, et en fait, je pense qu'aujourd'hui, le truc de Eva Longoria et les maquillages et tout, je pense que c'est vraiment une bonne idée, parce que en fait, on est là tous, riches, pauvres, que tu aies un appart de Maboul avec une vue de Maboul ou un 10 mètres carrés, au final, on s'est quand même tous retrouvés sur un même niveau d'égalité, c'est t'es chez toi et tu fermes ta gueule. Donc, si tu veux, ça a quand même ramené un truc de dire, bah, en fait, on est tous pareils, en fait. Et le fait de dire, mettre à l'honneur les imperfections des gens, je pense que c'est un truc qui va être une vraie lame de fond, parce que on en a marre des trucs nickel et ça nous a pris aussi à, je sais pas si t'as eu ça pendant le confinement, mais tu vois, là, on est arrivé 10 minutes à la bourre. Franchement, c'est pas très, très grave finalement, quoi. Tu vois, ça te permet aussi de temps en temps de dire, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut pas un peu lâcher? Je pense que, tu vois, moi, le conseil que je peux donner aux gens qui te regardent aussi, c'est, est-ce que vous travaillez pas mieux parce que vous êtes un peu plus détendu et que bah il y a des trucs là que tu peux pas faire en speed parce que c'est impossible. Finalement, est-ce qu'on n'est pas plus heureux comme ça? Tu vois le nombre de personnes qui vont vouloir avoir privilégié d'avoir une vie peut-être plus simple en province avec un jardin plutôt qu'à Paris et vivre une vie de merde avec une heure et demie de trajet. Moi, je l'encourage.
Alors pour prendre le contrepoint de ça, et je rebondis sur une question de Hélène Magario, que je n'écorche pas les noms, vu le contexte, comment convaincre le client à faire des campagnes de pub originales? Ont-ils plus peur de faux pas et du mauvais coup de pub? Et en effet, je pense qu'il y a aussi quand même, je sais pas si tu l'as ressenti dans tes clients, alors peut-être que tes clients sont spécifiques et ils sont aussi chez Buzzman et ils parlent avec un mec qui peut utiliser poil de couille, baiser et plein de trucs dans un interview sans... On s'en bat les coudes, comme dirait mon fils, tu vois. Donc peut-être qu'ils sont un peu plus dans cet état d'esprit. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même eu, alors, au moins un premier effet au début, les 2-3 premières semaines. Tu parlais du chaos. Moi, j'utilise souvent le terme sidération. Une semaine déjà. Mais ce moment où En fait, certains ont dit non, mais déjà, j'ai pas envie de donner l'impression que je vais profiter de cette crise. Déjà, j'ai pas envie de donner, tu vois. Et donc, il y avait une sorte de status quo qui s'est créé chez certains clients. Est-ce qu'il y en a que tu as dû un peu braquer pour leur dire
Non, parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. D'abord, les gens qui ont eu cette impression-là, ils avaient raison. C'est-à-dire que c'est assez indécent aujourd'hui de communiquer pour dire consommer mes produits, nanani, nanana. De la même manière, je t'avoue que toutes les pubs avec des violons et qui me remercient toute la journée, je commence à en avoir un peu ras. Tu vois, c'est la limite de la démago. Par contre, quand tu fais un truc où tu dis tiens, je vais divertir les gens en réalité, dans un moment comme ça, ils ont envie de se marrer et ils ont envie de chialer, mais tu vois, c'est ça qui te rapproche à l'autre être humain, la connexion émotionnelle que tu peux avoir avec d'autres gens. Donc en vrai, ça, faire marrer les gens, alors évidemment, il faut pas faire marrer les gens sur des trucs où tu es à côté. Donc tu peux très bien, effectivement, on n'a pas remué 7 fois notre langue dans notre bouche, mais 14 fois. C'est-à-dire on a fait 2 fois le tour. Parce qu'on s'est dit, ok, on va dire ça. Est-ce que là, on va pas passer pour des cons? Évidemment, t'es beaucoup plus en alerte de te dire, est-ce qu'il n'y a pas un truc est-ce que je vais pas passer à côté? Après, en général, quand t'es assez honnête et sincère, en général, si tu dis un truc, c'est que t'as un truc intéressant à dire. Après, oui, tirer profit de, tu vois, le truc de McDo, par exemple, j'ai partagé ça avec mon client Burger King, je lui dis. Je trouve ça chambé qu'ils aient ouvert parce que, tu vois, qu'est-ce que ça a fait? Ça a permis aux gens de sortir, de se faire un kiff, de retrouver leur Big Mac parce qu'ils adorent ça. Et puis, c'est un peu de la liberté comme un mec en prison, tu vois. Il a un bracelet électronique et il est ressorti et donc c'est sa permission, tu vois. Et en même temps, cette vidéo, elle m'a un peu attristé. Je sais pas, je me suis dit, putain, c'est terrible, quoi, de faire la queue à cette t'as vu ces images d'embouteillage hein, pour
Ouais, bien sûr, 2-3 kilomètres ouais
donc ça m'a un peu attristé et en même temps je te dis moi j'adore McDo d'abord j'ai comme client Burger King et j'adore le Whopper et j'adore cette marque Burger King moi j'ai toujours dit et mon client d'ailleurs est d'accord c'est que on travaille bien parce qu'on respecte vachement McDo parce que c'est une putain de marque et on la respecte d'autant plus. Et c'est pour ça qu'on a envie de faire des trucs bien et qu'on se casse.
Pourtant, vous les taquinez aussi pas mal.
Ouais, on les taquine, mais eux, ils nous taquinent aussi, hein, des fois. et du coup, je pense que, bien sûr que les gens ont fait attention à ce qu'ils ont eu à communiquer. Mais si t'as un truc intéressant à dire, dis-le. Et tu vois, par exemple, là, dans les deux campagnes qu'on va sortir là, dans les prochains jours, celle de Burger King, je crois qu'elle va sortir, demain ou après-demain. C'est exactement ce que je te disais. C'est un truc sur l'imperfection. Tiens, on va annoncer un truc, mais on va le faire un peu. On utilise un insight qui est justement le fait que tu vois là, nous on est arrivé 10 minutes en retard, mais finalement c'est pas très grave. Tu vois, on est un peu indulgent avec les uns et les autres. Ça ramène vachement d'humanité, je trouve.
Ça, c'est un point hyper. Je pense que tu mets là-dessus, hein, mais vraiment, tu as insisté sur ce truc. Mais je pense que c'est hyper important. Là, une forme d'indulgence sur plein de choses. C'est-à-dire, avant ce confinement, tu commandes sur, La Belle Vie, pour ne citer que lui, du PQ blanc et on te livre du PQ rose. Tu pouvais sauter au plafond et dire non, mais vous êtes des oufs, en fait. J'ai commandé du PQ blanc. Et là, honnêtement, limite, t'as pas de PQ et tu dis bon, bah, c'est pas grave, je l'aurai la prochaine fois, tu vois. Il y a un côté je trouve un peu plus. L'axe c'est potentiellement, j'espère que ça va rester parce que il y a des moments où.
Et moi, je trouve que tu sais, c'est Gainsbourg qui avait cette phrase.
Je déteste le PQ rose, hein, pardon. Dommage.
Gainsbourg avait cette phrase sublime. Il disait la connerie, c'est la décontraction de l'intelligence. C'est-à-dire que tu vois, être un peu laxiste et être un peu genre, c'est pas très grave. Ça t'empêche pas d'être exigeant. Et je trouve que l'humanité, le lien un peu là qui nous a unis tous dans cette galère, parce qu'on a tous été dans la même galère, c'est ce que je te disais, on a tous été mis au même niveau. Il y en a pas un qui a pu se dire ah ben moi c'est cool, moi je peux rester dehors, j'en ai rien à branler, je suis immunisé. Même l'immunité de ce truc est même pas prouvée, tu vois. Et du coup je trouve que ouais c'est cool d'être un peu indulgent avec les autres. Et d'ailleurs ce que je donne beaucoup, beaucoup comme conseil aux gens proches de moi que j'aime, il faut aussi être indulgent avec soi-même. Et on parle beaucoup de bienveillance. Moi, je pourrais buter les gens qui utilisent le mot bienveillance maintenant. Je trouve que c'est insupportable. Tu sais, c'est genre le mot valide, ça veut plus rien dire. Et je dis souvent, c'est quoi en fait? Déjà, commence par être bienveillant avec toi-même. Parce que les gens, ils sont tellement durs avec eux-mêmes. Et on est trop exigeant. Et en fait, tu sais, des fois, à force d'être trop exigeant, tu tournes les problèmes dans cinq, tu vois, dans tous les sens. Et tu sais quoi? T'es inertique. C'est-à-dire, tu ne fais rien. En fait, tous les gens qui se prennent la tête, qui coupent les cheveux en quatre, en fait, t'as l'impression, tu leur dis, mais en fait, tu coupes les cheveux en quatre parce que tu veux pas avancer, en fait. Tu veux pas essayer et puis on verra. Et puis si le résultat est pas au rendez-vous, bah, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Il y a un dessin de Vooch comme ça qui est génial. C'est un couple de vieux, tu sais, un peu à la Sampé, et ils sont chez eux, ils sont très riches, et ils regardent au loin comme ça la mer avec une vue, j'imagine, sur Monte Carlo. Ils sont en train de boire une coupe de champagne et ils disent, on est bien, on est très très bien, mais est-ce qu'on pourrait pas être un tout petit peu mieux? Et si t'es comme ça, mec, t'es toujours insatisfait. T'es jamais content.
On va finir dans un monde de bisounours, finalement. Je rebondis sur la question de Jean-Pierre Levieux qui dit « Est-ce que le positif serait qu'on va enfin pouvoir ancrer le marketing de la preuve avec des marques qui ont conscience de ce qu'elles apportent, donner en vrai pour recevoir, être aimable pour être aimé, donner l'attention pour en recevoir, etc. »
Ça, c'est la règle de base. Nous, on dit aux gens, à nos clients, on leur dit « Qu'est-ce qu'on cherche ?» On cherche que les gens s'engagent. On cherche à ce que ils cliquent sur le j'aime, qu'ils cliquent sur partager, qu'ils cliquent sur commenter. Déjà, quand quelqu'un fait ça pour ta marque, c'est énorme, en fait. Parce que le mec, il t'a pas déjà zappé, en fait. Et en fait, on leur dit, vous voulez que les gens s'engagent? Ben, dans ce cas-là, il faut s'engager soi-même. Il faut déjà commencer par s'engager soi-même, en fait. Tu peux pas demander à des gens qui s'engagent pour toi si tu t'engages pas toi-même. Et c'est toujours pareil, tu sais, c'est très bien d'être ambitieux parce que tu veux avoir 100, mais si t'as déjà 30 ou 60, c'est pas mal. C'est bien d'être un peu naïf et avoir des rêves un peu idéaux. Tu vois, moi souvent on me dit ouais, mais genre tu rêves, ça marchera pas. Tu sais jamais.
Ouais, dis ça à Elon Musk, hein, on en parlera. Mais cette période. Ouais. Pardon, je rebondis sur. Il est bon. Ouais. Cette période, Romain Testner qui dit va aussi laisser place à de nombreux opportunistes. On a un peu touché ce point-là en termes de com sur le Covid. Quelle est la stratégie de Buzzman sur l'utilisation du Covid dans les campagnes de com?
C'est encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure. C'est soit t'arrives à avoir un discours juste par rapport à ce qui se passe. Si tu passes à côté, pour le coup, et si tu tombes un peu à côté de la plaque, ouais, tu vas te faire latter, mais. J'ai pas beaucoup vu vraiment de trucs où les gens sont vraiment passés à côté en utilisant le Covid. Ouais, t'essayes de pas trop parler de la maladie et tout, tu vois. C'est un truc déjà c'est un truc de pudeur et de respect de l'être humain, en fait.
Si je dois parler aussi, parce que je rebondis sur le Eric-Henri Beribi qui dit « Mais Warrior, c'est comment ?» Autrement dit, en se rapprochant de ses leads, parce que je disais, je rebondissais, qu'on s'était arraché chez nous, chez Cosa Vostra, là-dessus, en se rapprochant de ses leads et prospects, leur offrir notre présence et notre expertise. Si je dois voir plus la partie Buzzman, c'est-à-dire comment vous avez communiqué auprès de vos clients, vos prospects, est-ce que vous commencez à faire vous continuez à faire du new business, vous avez toujours des tas de compètes, vous avez toujours des tas de choses, ou ça c'est encéphalogramme plat?
Ah non, tu rigoles ou quoi? On fait quasiment moi j'ai une presse par semaine, quoi. On a gagné deux ou trois trucs pendant le pitch, là on va attaquer deux autres pitchs là cette semaine d'ailleurs. Non, alors évidemment ça s'est vachement calmé par rapport à d'habitude. Mais non, il y a toujours des pitchs et tout. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que d'être proche de ses clients? Moi, déjà, je trouve que les prospects, ça doit venir vraiment dans un deuxième temps. Là, tu dois être concentré sur les gens avec qui tu bosses et qui te font bouffer, en fait. Parce que c'est eux qui te font bouffer, donc il faut les aider eux en priorité. Nous, on a pas mal de prospects à qui on a dit non, on peut pas bosser pour vous là en ce moment. On est trop occupés, parce qu'on va pas se mentir quand même, hein. De bosser en chômage partiel et en télétravail, c'est génial. Mais tu vois, il y a quand même un truc en moins, et le niveau et la capacité d'une agence de pub, en tout cas, pas une boîte qui fait de la fabrication, elle est pas à son summum, on va dire. tu réussis à faire des bons trucs. Tu vois, la communication qu'on a fait et qu'on continue à faire là, franchement, moi, j'en suis très content. Mais on va pas se mentir, t'as pas la même réponse et la même puissance que quand t'es tous ensemble. On va pas se mentir. Et ensuite, c'est surtout à soi-même, en fait, quand tu dis se rapprocher de ses leads. Alors moi, j'ai du mal avec les gens qui disent rapprocher de ses leads. Ça me fait flipper, en fait. C'est comme bienveillance. Ça me stresse. Je préfère dire mes clients.
Mais lead, il parle prospect. C'est vraiment, je pense, plus voilà.
Ah, les prospects, donc, d'accord.
Qui viennent prendre des premiers contacts avec toi. Est-ce que t'as une différente. Bah, tu vois, si je dois recontextualiser un peu ça, je prends l'exemple chez nous. Nous, quand je parlais de mode warrior, tu vois, on a essayé de se mettre sur une en mode très visible, quasiment produire encore plus de contenu pour Cosa Vostra, pour être vraiment là. Et en effet, dès que quelqu'un nous contacte pour un projet digital, un accompagnement strat, etc., on essaye de faire, tu vois, une sorte d'électrochoc, tapis rouge direct, tu vois. Et on s'est mis dans cette approche où, en effet, je pense qu'on est encore potentiellement parce que plus efficace sur certains points, meilleur que d'habitude sur certains aspects de l'onboarding de nouveaux ou futurs clients, tu vois.
Après, je pense que dans les gens qui nous ont appelés de l'extérieur, je repense à une discussion notamment, c'est sûr que si t'as pas grand chose à dire en ce moment, tu peux dire à quelqu'un, vous savez quoi, gardez votre pognon et on réfléchira plus tard pour savoir si vous avez un truc intéressant à dire, parce que en ce moment, si t'as pas un truc intéressant à dire, que ça soit utile, divertissant, émouvant, ce que tu veux, franchement, garde ton pognon.
Dis rien.
Garde ton pognon. Non, mais parfois, tu sais, se taire, c'est beaucoup plus efficace en termes de com. Hein. Alors évidemment, quand ça dure 8 semaines ou 12 semaines, les gens qui sont obligés de ne pas parler, pour le coup, c'est une vraie réflexion, parce qu'ils peuvent se dire, si j'ai rien à dire, c'est que j'ai un problème quand même. Parce que rester sous silence pendant autant de semaines, c'est pas normal, en fait. Ça veut dire que ton produit ou ton service, il présente certaines lacunes. C'est pour ça qu'il y a plein de boîtes qui vont pivoter. Il y a plein de boîtes qui vont pivoter. Tu vois, regarde, si tu prends les gens aujourd'hui qui ont des fabricants de parfums, qui ont fait du gel hydraulique, tu vois, c'est un petit pivot, mais c'est génial. Quand tu y penses, tu te dis, putain, c'est cool que les mecs ont aussi peu de temps, ils ont réussi à faire ça. Et on va dire un truc, c'est que il y a beaucoup d'initiatives personnelles et d'entreprises qui sont venues au secours du gouvernement et qui ont fait des trucs qui étaient à mon avis du ressort du pouvoir et qui a pas été fait. Et tant mieux. On est là aussi d'ailleurs, tu vois. Moi, j'aime pas trop le côté infantile des gens qui attendent qu'on fasse pour eux. Moi, j'ai été hyper fier. J'ai un pote à moi autour de moi qui a lancé un truc pour faire des visières grâce à des imprimantes 3D. Mmh. J'ai mis du pognon dedans. On a acheté des imprimantes 3D. On s'est retrouvé à lever du pognon avec certains potes et on l'a fait. Je te dis que dans le groupe WhatsApp qu'on a avec les messages des hôpitaux qui nous remercient et tout, que ça soit Necker et tout, putain, c'est hyper bouleversant. Et c'est des initiatives que t'es pas obligé de mettre en avant, mais en même temps, quand tu le fais, tu dis, on a réussi à faire un truc avec des gens qui ont fait des imprimantes 3D. En fait, tu vois, c'est quand même le futur, en fait, pour faire, tu sais, des visières.
Ouais, je vois très bien. Ouais, c'est fantastique.
Et je trouve ça, c'est quelqu'un autour de moi qui a eu cette initiative et je me suis dit, putain, c'est costaud, quoi.
On va bientôt clore tout ça, mais du coup, je vais te poser deux, trois questions rapides qu'on nous envoie. Et puis, j'en ai une dernière aussi que j'ai en tête, qui m'est venue tout à l'heure en t'écoutant. Il y a plusieurs questions, alors, qui reviennent sur le core business de Buzzman, autour du pitch du temps que ça prend, des compètes et des choses comme ça, de la rémunération. Donc là, j'ai Mathias qui dit vous parler. Quel est le coût économique et social des compétitions non rémunérées chez Buzzman? Les chiffres du secteur indiquent 15% de temps de travail des agences dédiées à ces acquisitions clients. N'est-ce pas irresponsable de la part des annonceurs d'effectuer ce type de concurrence? Bon, moi, j'ai écrit des choses là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui ont écrit des choses là-dessus. En quelques mots, tu peux me dire un peu votre position?
Écoute, comment je vais te dire un truc qu'on ne dit pas souvent, mais il y a très peu de pitchs auxquels on participe sans être payé. Okay. Voilà.
Au
vu du travail qu'on a fait précédemment, quand un client veut nous faire bosser, bah, il faut qu'il paye pour voir.
Je suis totalement en phase.
Et parfois, on n'y est pas allé parce que les gens nous disaient, bah non, nous, on ne paye pas nos pitchs. Et donc, du coup, on dit, bah ouais, désolé, bah non, on ne travaille pas pour rien.
On travaille gratuit.
Ouais. Okay. Il n'y a pas grand-chose qui est gratuit dans la vie, hein. C'est rare. Hein.
Il faudrait qu'on se mette tous en phase là-dessus et puis ce serait plus simple. Tiens, une question rapide, comme ça, peut-être que si on va voir s'il y a quelque chose qui te vient. Quelle est la marque avec qui tu ne travailles pas encore et avec qui tu aimerais travailler?
J'aimerais bien bosser avec Elon Musk.
D'accord. Il écoute toujours tous les épisodes de Génération Do It Yourself pour parfaire son français, donc ça tombe bien.
Mais j'aimerais travailler avec Elon Musk et j'aimerais travailler aussi avec un producteur en France qui vend des bonnes asperges. D'ailleurs, si tu veux, je vais te dire en avant-première un truc qu'on va faire, c'est qu'on va prendre chaque année, on va prendre une marque. Donc là, le premier, ça va être un mec qui fait un camion de pizza. Et en fait, on va prendre son business et on va faire en sorte qu'il y ait la queue devant son truc et pour prouver qu'on est vraiment bon à faire de la publicité. Et vraiment, on va le faire avec zéro moyen. Donc chaque année, on va lancer un appel à Buzzman va faire votre campagne et surtout si vous avez un business un peu pourri et que vous êtes paumé en France.
J'adore ça, Georges, et je trouve ça super parce que tu vois, là, c'est de la com pour toi. Comme ce que tu fais avec sur Zoom avec le patron de Burger King et tes employés, etc. C'est de la com interne, mais c'est de la com, mais de la com vraiment intelligente qui montre en fait qui est pas juste là à dire regardez on est fort, c'est dire ben voilà on l'a fait, tu vois. Et si ça vous parle, ben voilà, c'est pas juste dire je suis le meilleur, quoi. Donc bon, ça correspond bien à ce que tu fais depuis 15 ans.
On se dit toujours tiens est-ce qu'on aurait aimé le voir ce truc, tu vois. On se dit, putain, si quelqu'un d'autre le fait, est-ce qu'on serait jaloux? Ouais, donc on le fait.
Je suis d'accord. C'est comme ça que la semaine dernière, on a sorti un podcast qui s'appelle Pitch Pong, tu vois, qui est un podcast de pitch. Tous les jours, ouais. Un pitch d'une startup. Et moi, je me disais un jour, il y a quelqu'un qui va le sortir avant moi, ce machin, ça va m'énerver. Donc, on le sort. On l'a fait et on a Microsoft qui nous a accompagnés. Je les remercie au passage, qui nous a sponsorisé la première saison. Et voilà, et on va avancer sur les prochaines.
C'est génial parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il faut être indulgent avec soi-même. Fais des trucs, peut-être dans le temps, à un moment, tu vois, souvent les gens, ils font pas en se disant « Ouais, mais ça marchera pas. » Des fois, ça marche.
Et le dernier point sur lequel je voulais éventuellement te poser une question, mais tu as forcément remarqué… cette sorte d'élan de créativité, moi, je trouve de ouf qu'on voit sur les chaînes WhatsApp, tes potes, les trucs, les mèmes qui partent partout, même sur TikTok, un peu partout, etc. Dans quelle mesure vous, on a assez peu parlé de ça aujourd'hui, mais ça vous alimente? Parce qu'il y a quand même un choc, on a parlé plusieurs fois de ce choc, mais le fait d'être confiné aussi, le fait de travailler en tunnel comme ça, pour la créativité, ça perturbe quand même tout ça. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des endroits, des sources, des choses, si je veux progresser, je sais pas, qu'est-ce que tu dis à tes équipes? Est-ce que tout ça se fait naturellement? Qu'est-ce que tu fais toi-même?
Écoute, moi, je trouve que mieux que de nous alimenter, tous les trucs que tu vois, les mêmes que tu reçois effectivement sur Twitter, Insta ou dans tes trucs WhatsApp, en fait, ça te met quand même, ça peut te foutre un peu des complexes. Parce que tu dis, putain, les mecs, ils sont tellement forts.
C'est clair.
Tu vois, tu regardes des trucs et tu dis, alors déjà, c'est fort en soi. Et puis des fois, c'est des trucs de réactivité. Genre, il se passe un truc à la téloche, boum, 5 minutes après, t'as un mec qui fait un mème et tu dis, putain, mais les mecs, c'est des tueurs. Donc en vrai, parfois, si t'as pas un peu de confiance en toi, ça peut te mettre un peu une petite pression. Et du coup, comme ça a du succès, tu dis bah non, en fait, ça veut dire aussi que les gens ils ont envie de ça. Donc ça te légitime ton travail de divertissant. Parce que moi, finalement, je fais de la pub, mais surtout, je fais du divertissement. C'est ce que j'aime. Et le deuxième truc, c'est que qu'est-ce que ça dit, ça, en fait? Ça veut dire que, et ce que moi, j'ai fait pendant mon année sabbatique, et ça bouclera peut-être sur le début de notre rendez-vous, pendant un an et demi, je me suis arrêté avant de créer Buzzman. Je n'aurais jamais créé Buzzman si j'avais pas pris un an et demi d'année sabbatique. Mmh. Et pour ça, je l'explique par le fait que quand tu es au calme, en fait, c'est comme un verre où tu mets de la terre. Notre life, c'est tu vois, on remue la terre avec l'eau. En fait, là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a posé le verre. Et du coup, t'as la sédimentation. T'as la terre qui va au fond du verre. Donc, du coup, tout ce qui est au-dessus, ça devient hyper clair. Donc, t'es vachement lucide. Donc, les gens qui sont créatifs, la créativité, elle vient effectivement d'un chaos, d'un bordel, parce que tu t'alimentes à droite, à gauche, d'une phrase, d'une image. Et après, c'est aussi parce que t'es dans un moment aussi un peu un peu calme, en fait. Mm. Tu vois, tu regardes le ciel, il n'y a pas de nuages, il y a des animaux qui arrivent. Ouais. T'es dans un truc où c'est un peu de la lévitation, tu vois. Donc, quand t'es dans ce truc-là, ben, t'arrives à certainement sortir entre le mélange de chaos et t'arrives certainement à être plus créatif. Donc, je pense que le niveau de création des mèmes, mais c'est insensé. C'est-à-dire que moi, je remercie ces gens. D'ailleurs, je ne sais pas d'où ils sont, ces gens. Il y a toujours le truc, je dis, mais qui est le mec qui a écrit ce mème? Il y a forcément un mec qui l'a fait.
Avant de te laisser, dernière question, parce qu'elle m'intéresse aussi d'avoir ton point de vue là-dessus. J'avais pas prévu, je m'étais dit c'est vraiment la dernière, parce qu'on déborde largement, mais c'est pareil, on s'en fout en fait, on est indulgent avec nous-mêmes. Sonia Tatar, que j'embrasse aussi, qui demande que pensez-vous de l'avenir de la pub radio ou pub audio, tu vois, plus largement. Est-ce que c'est des choses que tu, sans forcément parler de l'avenir, mais est-ce que c'est des choses que vous travaillez aussi beaucoup, un peu l'audio, la radio?
On en fait, tu vois, on fait un peu de radio, mais moi, je pense que c'est la pub audio, en fait, auquel il faut penser. Et je pense que là, aujourd'hui, tu vois, on parle d'un podcast. Moi, il me tarde, et ça fait longtemps que je me le dis, et je l'ai pas trouvé, donc je ferme ma gueule, mais il n'y a pas eu encore un podcast de marque qui m'a intéressé. Il y a plein de podcasts qui sont géniaux, d'ailleurs, géniaux, pardon.
Complètement d'accord, ouais.
Le tien en est un, et d'ailleurs, j'étais vachement flatté que tu me demandes d'y participer. Mais il n'y a pas un podcast d'une marque où je me suis dit putain, tu vois, il n'y a pas eu le hacking du podcast en fait, via une marque. Mmh. Donc, la pub radio, oui, ça marche toujours parce que c'est un média chaud. Là, j'imagine que les gens ont écouté pas mal la radio ces derniers temps pour arrêter le tunnel de la télé. Mais ouais, c'est un bon avenir. J'y vois pas forcément un truc qui va exploser. Par contre, tous les trucs de podcast, les tutos, tu vois, les lives pour faire du sport et tout. Aujourd'hui, il y a des boîtes, c'est sûr, qui vont se créer là-dessus. Est-ce qu'un club de gym, ça mérite autant d'investissement immobilier?
Ouais, ça. Mais sur le contenu qui va autour de tout ça, je te rejoins complètement, peut-être plus que sur la pub, mais un contenu intelligent, intéressant pour les clients de ces marques.
Ça fait longtemps qu'on y bosse, on l'a pas trouvé encore et je l'ai pas entendu. Mais j'adore hein, les podcasts, je trouve que c'est enfin tu vois, le nuage là, il y a eu une sorte de petite fiction sur Canal sur Spotify c'est vachement bien fait, mais j'ai pas encore eu le truc vraiment où je me dis putain, ça c'est du génie quoi. Ça va arriver, hein.
Ouais. Il y a certaines choses, je regarde en effet aux États-Unis, mais on peut faire des choses avant eux. C'est top. Écoute, Georges, merci pour tout ça. Il y a plein de questions plus sur le fond de Buzzman, sur les qu'est-ce qu'est Game Changer et tout. Choses là que je me réserve, donc je vous remercie de les avoir posées, mais pour un épisode plus long avec Georges, pour voir vraiment comment tu as créé au début, comment tu passes de 1, 2 à 150 et à une revente au moins majoritaire à Havas. Ça, c'est des questions que j'aimerais que je me garde pour la
avec
suite,
plaisir.
Qu'on se fera vraiment sur un épisode plus long. Mais je te remercie sur ce focus. Moi, ce que je retiens, c'est que deux choses principales, hein, c'est que en gros, beaucoup de choses ont changé en termes de communication, donc faut tourner 14 fois la langue dans sa bouche avant de partir, mais faut aussi en parallèle être plus indulgent. Et je suis d'accord avec toi sur, tu vois, je rebondis même sur PitchPong dont je te parlais à l'instant, ce podcast. Il y a 2 mois, il aurait pour moi été hors de question de le proposer à Microsoft en parlant d'un podcast qu'on enregistre à distance, quoi, avec un épisode sur deux où le son est moyen bon, parce que en fait l'invité a pas forcément un micro et un voilà, et donc du coup même là la qualité vidéo qui est pas toujours suffisante, etc. Et du coup aujourd'hui quand tu te dis même Microsoft est capable d'accepter de nous accompagner sur un truc comme ça, parce que ils se disent c'est le fond qui est bon et puis il faut être indulgent, je trouve ça assez assez intéressant. Ça reboucle aussi sur ce que tu disais sur la fin, quoi.
Il y a un mec à l'agence hier qui a eu une interview dans CB News, il a dit heureusement que le confinement n'a pas eu lieu à l'époque du Minitel. Parce que tu vois, là, tout ce qu'on est en train de faire, on n'aurait pas pu le faire. Là, c'est génial, tu vois. Je sais pas si les gens ont appris un truc ou si ça leur a juste fait du bien d'entendre tes propos et les miens sur les sujets qu'on a abordés. Mais on se rend pas compte, tu vois, par exemple, du fait qu'on puisse bosser via ces outils-là et continuer à faire vivre une entreprise et tout, c'est quand même génial. T'imagines, à une époque, on aurait fait comment? Si le confinement, c'était à l'époque,
c'était un enfer. Je t'aurais envoyé un courrier, peut-être qu'on l'aurait fait par téléphone, puis je l'aurais envoyé par fax à publication.
Et non, c'est à la fin du confinement.
Ouais. Mais même, tu vois, ce Facebook Live, LinkedIn Live surtout, c'est la première fois que je fais ça. En effet, les premières fois que je fais ça, et ça a été ouvert un peu pendant cette période, à marche forcée, je pense, par LinkedIn. D'ailleurs, je te parlerai des contacts LinkedIn dont tu cherchais.
Avec grand plaisir.
Voilà. Je te remercie en tout cas pour tout ça. Je suis content de pas t'avoir. Ça aurait été drôle de t'avoir vu finir torse nu, mais tu vois, en attendant, j'ai vu que t'as failli recommencer à un moment. En attendant, j'ai mis ma casquette parce que je m'attendais à ce que tu aies une casquette pendant cet enregistrement, parce que je te vois souvent avec des casquettes. Je te remercie pour tout ça. Je vous remercie à tous de suivre les lives sur LinkedIn. Abonnez-vous à Georges, donc Georges Mohamed Chérif, ou suivez-le sur LinkedIn et partout ailleurs. Et puis à Mathieu Stéphanie, vous pouvez y aller, vous pouvez m'ajouter, c'est facile. Il reste encore de la place sur mon LinkedIn avant le nombre butoir de 30 000 au-delà duquel on ne peut plus accepter d'amis, je crois. Et voilà. Et puis on se retrouve ce week-end sur Génération Do It Yourself, normalement avec le CEO, le fondateur de Appen, Didier Rapaport. Donc je suis très content. J'ai pas encore tourné cet épisode.
Tu sais que c'est un de mes clients?
Ah ouais, voilà, tu vois.
Il a été annoncé, mais c'est un de nos clients.
On se parle jeudi, donc ce sera tourné la semaine prochaine. Ce sera tourné là pour ce dimanche. Et puis, je suis impatient d'en faire un avec toi, Georges. Donc, merci.
Avec plaisir. Écoute, Mathieu, merci pour cet entretien, parce qu'en plus, nous, ça nous permet aussi de mettre des mots sur ce qu'on a vécu. Donc, c'est un truc de psychothérapie qui est assez intéressant. Donc, je te remercie et merci pour ton travail. Et bravo, c'est super. Je pense que ce que tu apportes aux gens dans les podcasts que tu fais avec les gens que tu invites, qui sont toujours des gens hyper inspirants, je trouve que moi je te remercie, parce que moi j'en ai écouté beaucoup. Je sais pas si je le serai autant que les autres, mais en tout cas voilà, je voulais te remercier.
Je te remercie, Georges, j'en suis persuadé et je trouve ça intéressant de voir et je suis impatient de creuser cet aspect sur ton implication à tous les niveaux, mais de Buzzman, comme je le disais tout à l'heure, hein. Quand je t'ai eu, j'aime beaucoup ces moments où tu me dis attends, je suis en ligne, je te reprends, et puis tu laisses le truc et je t'écoutais, tu me dis je vais couper ou rappelle-moi, je dis non, attends, j'attends, parce que ça me permet de voir un peu comment tu bosses. Je trouve ça sympa, c'est une forme d'intrusion.
Ouais, c'est les behind the scenes, quoi.
Ouais. Right. Top, merci. Allez, on va pas s'éterniser plus. Salut, Georges. Et bonne fin.
Bon courage à tout le monde. Soyez indulgents avec vous-même. Ayez confiance. Et on va sortir de cette merde et on va être à nouveau très heureux.
Mais on est toujours très heureux. À plus. Ciao. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.